c'est comme faire un deuil hein, du XXe siècle, du Just Do It, Yet We Can. Et dans ce deuil, on va descendre, on va partir de la sidération à la dissonance cognitive, je sais mais je bouge pas, le déni, puis la dépression parce que le cerveau il tient pas longtemps comme ça à lutter contre les émotions. C'est bien de tomber parce qu'après on a l'élan pour repartir et être sur ce que j'appelle la phase de l'acceptation.
Les rapports du GIEC,
les inondations, les canicules meurtrières, le rôle des activités humaines,
les climatologues en sont convaincus.
On atteindra ou dépassera encore les 40 degrés.
Éco-anxiété, le terme a émergé il y a quelques années à peine. Pour la médecine, il ne s'agit pas d'une pathologie. Les éco-anxieux souffrent pourtant d'un véritable mal-être qui peut aller jusqu'à la dépression.
Réchauffement climatique.
Ils sont globalement saisis d'inquiétude devant la dégradation de notre planète et pensent que les chances d'inverser la tendance sont de plus en plus faibles.
Le climat change.
Cette prise de conscience se traduit de façon diverse. Militantisme, bien sûr, avec une valorisation des actions de protestation contre l'inaction des gouvernements. Ou encore, changement de vie, allant jusqu'à la remise en cause des modes de pensée et de fonctionnement.
Il va falloir apprendre à compter autrement et à compter avec plusieurs types de capitaux. Ce qu'on a globalement pas fait. Depuis que l'économie capitaliste libérale existe, on a quand même toujours appris à compter de l'argent et globalement à ne compter que ça, ou en tous les cas à compter de façon extrêmement prioritaire.
Des événements tels que la publication d'un rapport du GIEC, une COP ou une catastrophe climatique suscitent chez les psychologues, souvent peu ou pas préparés, des pics de consultation.
Il y a eu une vague de canicule, je crois que ça devait être fin juin 2019. Donc là j'ai vu, suite à ça, des gens arrivaient à mon cabinet de par cette crainte de voir un monde devenir une terre étuve. Voilà, est-ce que c'était, enfin, en 2019, s'est posé la question de est-ce que c'est maintenant les problématiques climatiques, on est en train de les vivre suite à ce phénomène de canicule.
Et si toutes les catégories d'âge sont affectées, les jeunes sont particulièrement touchés. Une étude mondiale pour le compte de l'ONG Havas révèle que les trois quarts d'entre eux sont effrayés par le futur. Un sur deux juge que la sécurité de sa famille est menacée et 4 sur 10 pensent ne jamais avoir d'enfants. Ils cumulent un sentiment d'impuissance avec l'impression d'avoir été trahis par les générations précédentes.
Qu'est-ce qu'on veut ?
La justice climatique !
Éco-anxieux ultra lucide, c'est un reportage de Vanessa Descours.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Alors, sous une bonne pluie battante du mois de novembre, nous arrivons en banlieue sud de Paris. Nous avons rendez-vous avec Jeannette. Elle a 18 ans, elle est étudiante. Et pour elle, l'éco-anxiété, c'est de se dire qu'elle n'est pas tout à fait dans le monde qu'elle aimerait avoir. On va voir ça avec elle dans la maison familiale. Et normalement, il y a une copine à elle qui sera là. Elle s'appelle Suzanne. Voilà, nous y sommes. Nous voyons aussitôt qu'on est chez quelqu'un d'engagé, puisqu'il y a des bacs à compost juste devant la maison. Il y a aussi quelques affiches pour expliquer qu'il était bon de recycler les choses qu'on était tenté de jeter éventuellement. On est au bon endroit.
C'est pas moi.
J'avais compris.
Ouais, oh, il est déjà ouvert.
Je peux rentrer ?
Ouais, pardon, excusez-moi.
Pas de soucis, pas de soucis.
Moi, habitué à ce que chez nous, ça...
Bonjour.
Ça, bonjour. Moi, je vous laisse avec les filles.
Et bonjour.
Tout droit.
Bonjour. Je te suis ?
Bah oui.
Allez.
Moi, j'avais une BD, il faut que je la retrouve. Ah oui, celle-ci, c'est la BD de Vito Utopique. C'est vraiment une vision, la vision de l'auteur de qu'est-ce que serait son utopie un peu durable pour le futur. Et ça, ça m'a vachement plu. Sinon, il y a quoi ? Ça, c'est Nous sommes l'étincelle. De Vincent Villemont. Alors là, c'est l'histoire de jeunes qui se coupent du monde parce que les vieux leur ont, les écoutent pas.
Ils les écoutent pas parce qu'ils sont pas crédibles selon eux ?
Ils sont pas crédibles et du coup, ils décident de tout quitter pour créer une communauté pour voir en fait si ça a marché vraiment. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se replier ? Voilà.
Alors...
Bonjour, je m'appelle Jeannette, j'ai 18 ans, je suis étudiante en paysage dans un grand potager.
Jeannette, je vais d'abord préciser qu'avec ton accord, je te tutoie. Est-ce que tu te qualifierais comme éco-anxieuse ?
Je sais pas si c'est de l'éco-anxiété, parce que l'anxiété pour moi c'est plus qu'une peur, c'est quelque chose qui est ancré et qui te tient aux tripes tous les jours. Et je peux pas dire que là en ce moment c'est quelque chose que je ressens, mais plus je lis, plus j'observe, parce que je suis dans une formation où j'observe beaucoup, et comme j'ai toujours mon cerveau un peu connecté à ces questions du coup de santé, d'environnement, plus je me dis que il y a des choses, des petits riens qui sont très angoissantes dans le quotidien, et ça des fois ça me déprime, mais c'est pas de l'anxiété qui te tient au ventre tout le temps.
C'est pas un état permanent, mais il y a des petites bouffées de temps en temps, c'est ça en résumé ?
C'est ça. C'est quelque chose qui peut te bloquer, mais aussi un moteur pour te dire que c'est pas normal et qu'il faut agir, et pour te rebeller des choses qui avancent pas. Ça.
Et justement, quand il y a des inquiétudes liées à une actualité, une catastrophe naturelle liée effectivement au dérèglement climatique, quand il y a des rapports du GIEC, quand il y a ces petites bouffées de « dans quel monde vit-on », tu te sens bien entourée justement par tes parents qui sont très sensibilisés à ça ?
On en discute. Après, eux aussi, ils sont assez de mon côté, même si des fois je suis un peu plus révoltée et du coup ils disent « mais il faut reprendre le contexte et tout ça ». Tu t'engages trop, faut arrêter. Y a d'autres choses à prendre en compte, sauf que en fait, des fois, on n'a pas le temps de prendre en compte tous les trucs de la bien-pensance, des trucs comme ça. Du coup, je suis un peu entre les deux. Moi, j'ai regardé un documentaire il y a pas si longtemps que ça sur des femmes qui luttaient contre une centrale nucléaire et qui avaient déjà et les habitants avec elle avaient mis en place tout un système dans les années 80 d'énergie renouvelable. Et je me dis, mais en fait, on avait déjà ça il y a 40 ans. Enfin, du coup, comment ça se fait que ça soit encore là ? On a déjà tout préparé pour toutes les catastrophes. Et pourtant, quand ça arrive, on est toujours « Oh, ça arrive !» C'est comme si on avait tout le kit, mais qu'on n'osait pas l'ouvrir. Ça, c'est super énervant. Et les dirigeants nous font des promesses d'ouvrir ce kit, mais en fait, ils le font pas, parce qu'ils ont... Voilà.
Ça génère de la colère, genre bien avant ma naissance, on savait quoi, en fait.
Moi, je trouve ça vraiment super choquant, en fait. Enfin, et j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de dériver, de faire plein de panels, de oui, mais, non, en fait, c'est parce que t'as pas envie de donner ton fric, t'as pas envie de... Enfin, tu restes dans ton petit confort et t'as pas envie de changer parce que c'est bien pour toi. Et il y a plein de prétextes pour faire autrement, faire des nouvelles, le greenwashing, faire des COP, des assemblées, etc. C'est pour de plus en plus retourner là. Enfin, perdre du temps, enfin, ça nous fait perdre du temps et voilà.
There is no planet B. Greta Thunberg.
There is no planet blah.
28 septembre dernier.
Blah, 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 blah.
Il n'y a pas de planète B. Il n'y a pas de planète blah.
This is not about some expensive,
il n'y a pas de campagne verte politiquement correcte avec des lapins qui se câlinent au bla bla bla. Mieux reconstruire. Économie verte.
Bla bla
bla.
Net zero by 2050.
Zéro émission en 2050. Bla bla bla.
Net zero by 2050.
Zéro émission bla bla bla. Neutralité carbone. Bla bla bla.
This is all we hear from our so-called leaders.
Voilà ce qu'on entend de nos soi-disant leaders.
Words.
Des mots.
Words that sound great.
Des mots qui sonnent bien.
But so far has led to no action.
Mais qui jusqu'ici n'ont pas été suivis d'action.
But they've now had.
Mais ils ont fait 30 ans de bla bla bla. Et où cela nous mène-t-il ?
Bonjour, je suis Suzanne, j'ai 16 ans et je suis au lycée en première. Je me définis comme éco-anxieuse optimiste. Parce que pour moi, c'est pas incompatible. C'est juste qu'il y a des jours où quand on lit, ça renforce le fait que ça va vraiment pas.
Et ces journées-là, du coup, c'est comment pour toi ?
Des fois, c'est même pas des journées. Des fois, c'est juste vraiment juste des moments. Ou bien ça peut s'étendre sur plusieurs journées. Mais ça se manifeste par, je sais pas, des pleurs ou juste des gros moments où on n'arrive pas à penser à autre chose. Où tout rejoint tellement ça. que bah, c'est impossible de se projeter, c'est impossible, enfin tout, on pense tout le temps à ça. Enfin, moi je sais que j'ai des moments, des journées vraiment je pensais qu'à ça. En cours on n'arrive pas à se concentrer sur autre chose parce que tout ce qu'on dit dans le cours c'est ramené à ça en fait. Et bah ça fait peur. Parce que c'est impossible en fait de parler d'autre chose tant qu'on n'a pas réglé ça et je comprends pas que les gens soient pas aussi alarmés que nous. Ça aussi, ça me fait paniquer de me dire que les gens continuent de se comporter comme s'il n'y avait pas de soucis, alors que bah non, enfin c'est, on devrait quand même tous avoir un moment où on est là genre wow, pourquoi est-ce qu'on continue de vivre notre vie comme si tout allait bien alors que c'est pas le cas.
Ce que tu dis, c'est qu'il est normal en fait d'être anxieux.
Il est
anormal de ne pas l'être, c'est ça.
Oui, c'est normal et surtout c'est une réaction très humaine et ça veut dire qu'on fonctionne encore bien et qu'on est encore des humains et qu'on n'est pas encore complètement dans cette histoire de pensée unique, complètement dans des cases où en fait on réfléchit plus et être anxieux, anxieuse, bah c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on y porte de l'attention et que ça compte pour nous.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension générationnelle? Vous êtes la première génération sur laquelle on fait reposer une pression de dingue en disant « eux, ils ont compris, on peut compter sur eux, on peut s'appuyer sur eux, ils sont en tête de ce combat climatique ». Est-ce que ça rajoute un peu de pression, de tension? Je ne sais pas.
Alors déjà, non. On n'est pas, tous les gens qui ont 19 ans n'ont pas à porter sur eux. Enfin, c'est un combat qui est collectif et en même temps, c'est ça qui fait que c'est bien. Mais moi, personnellement, ça ne me met pas de la pression parce que la pression, je me la mets déjà toute seule. Enfin, juste lire les nouvelles, c'est suffisant. Et ça ne me met pas de pression parce que je sais que les gens qui disent ça, en général, ils font rien. Si tu comprends que le monde va pas bien, bah vas-y. Enfin, au lieu de juste te dédouaner de la responsabilité en disant aux jeunes, alors que les jeunes, enfin, je sais plus, une activiste avait dit, bah, enfin, on devrait pas être là, en fait. On devrait pas être là. Il y a des manifestations à se voir le week-end, à réfléchir, à écrire des trucs. On devrait pas être là, à passer notre temps à y penser. Enfin, si on réfléchit en termes de responsabilité, c'est pas notre responsabilité de faire ça. Et pourtant, on le fait parce que personne le fait.
This is all wrong. Cela ne va pas du tout.
I shouldn't be up here.
Je ne devrais pas être là.
I should be back in school,
je devrais être à l'école,
on the other side of the ocean,
de l'autre côté de l'océan.
Yet, you all come to us young.
Mais vous vous présentez devant nous, les jeunes, pour apporter de l'espoir.
How dare you?
Comment osez-vous?
You have stolen my dreams,
vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses.
Yet, I'm one of the lucky
je fais pourtant partie de ceux qui ont de la chance.
People are suffering.
Les gens souffrent.
People are dying.
Les gens meurent.
Entire ecosystems
des écosystèmes entiers s'effondrent.
We are in the beginning of
nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées de croissance économique éternelle.
How dare you?
Comment osez-vous?
Because if you really understood the situation,
car si vous compreniez vraiment la situation
kept on failing
et que vous continuez
to act,
à échouer à agir,
you would be evil, and that
vous seriez
I refuse
diabolique.
To believe.
Et ça, je refuse de le croire.
Laëlia Benoît est pédopsychiatre. Elle est chargée d'une étude sur les conséquences de la crise climatique chez les plus jeunes. Nous l'appelons sur le campus de la prestigieuse université américaine de Yale. Elle y conduit cette enquête chez des jeunes âgés de 6 à 18 ans. Ils viennent de 3 pays, États-Unis, Brésil et France. Des milliers de kilomètres de distance et beaucoup de ressemblances.
Allô ?
Oui, bonjour Madame Benoît.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Vanessa Descoureaux de France Inter. Tout marche bien, semble-t-il ?
Ah, oui, ça marche bien. Oui, la similitude, c'est que tous sont tristes et tous se rendent compte qu'on ne s'occupe pas assez du changement climatique et qu'ils n'ont pas assez de pouvoir seuls pour agir. En ce sens, les jeunes générations sont vraiment une minorité, c'est-à-dire une minorité de la population qui est oppressée. Comme ça peut être le cas dans des minorités qui subissent du racisme, dans la minorité des femmes qui peut subir du sexisme, comme des minorités culturelles. On est face à une minorité qui est les jeunes, en fait, qui a moins de pouvoir que une autre partie de la population, même si c'est pas forcément lié à leur nombre, parce qu'ils sont quand même très nombreux, en tout cas à l'échelle globale, mais qui est lié à des rapports de force, à du pouvoir qu'ils ont moins. Et en ce sens, notre étude va dans le même sens que plusieurs autres études qui ont montré que les minorités sont plus inquiètes du réchauffement climatique. Notamment l'étude de Yale avec le Yale Climate Change Communication Program. Ce qu'on voit dans cette étude, c'est que les personnes qui font partie des minorités sont plus inquiètes. Les femmes sont plus inquiètes, les personnes de couleur sont plus inquiètes, les personnes qui sont précaires, avec un niveau socio-économique plus faible, sont plus inquiètes, parce que ces personnes savent qu'elles seront laissées pour compte. Et je pense que c'est quelque chose à avoir en tête très clairement. Les jeunes savent qu'ils seront laissés pour compte. Ils font partie de cette minorité. Je pense que c'est important de les voir comme tels maintenant. Une des notions qu'on peut utiliser maintenant pour comprendre leur situation, c'est la notion d'enfantisme. Donc, childism en anglais, qui est le préjugé négatif systématique à l'égard des plus jeunes, donc notamment des enfants et des adolescents. Vous connaissez le sexisme? Vous connaissez le racisme? Eh bien, l'enfantisme, c'est le préjugé à l'égard des enfants. Et c'est quelque chose qu'on a vu de manière criante lors de la campagne de Greta Thunberg, qui était notamment de la renvoyer à ses études, à son jeune âge, etc., et de la négliger totalement.
Je trouve lamentable que des adultes s'inclinent aujourd'hui devant une enfant. Je crois que l'écologie mérite mieux. Et il est clair qu'une enfant de 16 ans, quel que soit le symptôme dont elle souffre, est évidemment malléable et influençable. Et nous avons mieux à faire pour sauver ce qui peut l'être.
Malléable et influençable, elle demande de prendre en compte les données scientifiques du GIEC.
Oui, bah, parce que
à son âge, vous étiez maoïste, Alain Finkielkraut.
Mais oui, mais d'accord, mais je vous ai expliqué ce que c'était. Bah, je vous ai expliqué que j'en étais pas fier.
Elle demande de prendre en compte des données scientifiques qui concernent le réchauffement climatique.
Arrêtez, Ali Badou, et laissez-moi répondre.
Pourquoi arrêterais-je ?
Eh bien, parce que nous avons mieux à faire pour sauver ce qui peut l'être de la beauté du monde que de nous mettre au garde à vous devant Greta Thunberg et d'écouter les abstraites sommations de la parole puérile.
Bla, bla, bla.
C'est quelque chose qui est tout à fait larvé dans notre société, y compris vis-à-vis des jeunes, hein, même quand ils sont plus des enfants, de dire oui, bon, c'est des jeunes collègues, etc. Donc le terme jeune a en soi quelque chose de dépréciatif. Je pense qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur ce type de préjugés, puisque nous avons toute une population qui est une minorité, qui sont les jeunes du monde, qui ont besoin de gagner en pouvoir et en capacité d'action pour pouvoir s'occuper des défis qui vont les concerner de manière prioritaire et sur lesquels on les laisse seuls jusqu'à présent.
Je crois que l'écologie mérite mieux.
Qu'est-ce qu'on veut ? La justice climatique, on la veut quand ?
Maintenant !
Et qu'est-ce qu'on veut ?
La justice climatique !
La
vocation !
Maintenant !
C'est aujourd'hui la journée mondiale d'action pour la justice climatique. Il y a des rassemblements un peu partout dans le monde. Celui de Paris est prévu devant l'hôtel de ville. Et c'est là qu'on va retrouver Suzanne, qui cette fois n'est pas accompagnée de Jeannette. Jeannette est une bonne excuse, elle passe le BAFA.
Ah, coucou, je cherchais, désolée.
Salut Suzanne, ça va ?
Ça va, et toi ?
Ça va.
Comme on l'a dit, nous allons pointer la responsabilité des dirigeants. Nous allons dénoncer leur inaction climatique, affirmer que leur inaction climatique est un crime.
Est-ce que pour toi c'est important de participer à ce genre de marche, peut-être symbolique, peut-être plus que ça pour toi ?
Oui, dans tous les cas, que ce soit symbolique ou pas, c'est important pour moi par rapport à ce qu'on disait la dernière fois avec l'éco-anxiété. C'est grâce à des moments comme ça que ça se dissipe et que c'est les moments où ça va mieux et on réalise que ça va aller. Même sans aller dans des actions où il y a des risques judiciaires, etc., ça, évidemment que c'est très important et ça permet aussi de réaliser où est-ce qu'on en est et ça permet d'avoir concrètement des choses qu'on peut voir parfois juste dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Et là, concrètement, dans la vraie vie, en vrai, on voit ce que ça donne. Donc c'est bien.
Ça rebooste le moral, en gros.
Oui, oui, complètement. Parce que c'est aussi l'effet de groupe et d'être avec plein de gens, ça aide. Alors que quand on est vraiment tout seul chez soi en train de le faire, c'est pas forcément aussi efficace pour soi, de soi à soi. C'est ça aussi toute la force de cette action, c'est que on coordonne tous les pays ensemble. C'est pas moi qui le fais, mais je trouve ça. Enfin, je suis très admirative de ce travail et que coordonner tous les pays en même temps, c'est comme quand il y avait les marches le vendredi, que tous les pays le fassent en même temps. Évidemment que ça a un impact beaucoup plus gros pour l'image d'avoir autant de gens dans autant de pays différents qui n'ont pas forcément de liens spéciaux entre eux, mis à part ça, qui se coordonnent en même temps pour marcher en même temps. C'est un geste fort.
Ces marches du vendredi étaient vraiment portées quasi exclusivement par la jeunesse, pour le coup.
Oui.
Est-ce qu'on vous a toujours pris au sérieux sur ces rassemblements-là ?
Moi, je n'ai pas participé à ces marches parce que j'étais trop jeune, mais oui, beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux. Et on était ensemble au collège. Et,
avec une camarade d'à côté de nous.
on n'a pas pu les faire parce qu'on était trop jeunes. Mais évidemment que oui, il y a plein de gens qui ont fait le raccourci de « c'est pour pas aller à l'école, c'est juste parce que ils ont la flemme ». Non, on aurait tous préféré être à notre cours de maths et faire nos contrôles. Vraiment. On devrait pas, c'est pas à nous de faire ça et on devrait pas le faire. Et pourtant, on est là. Alors que le samedi, on pourrait faire des pique-niques. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait ? On est là pour l'action.
Les plus pollueurs, les plus emblématiques de l'inaction politique climatique, ce sont les coupables de complaisance ou de complicité avec les lobbies des finances et des énergies fossiles. Je vais citer leurs noms. Justin Trudeau. Joe Biden. Bolsonaro. Xi Jinping. Président de la République populaire de Chine. Emmanuel Macron. Salut fort là, il y a quoi. Angela Merkel.
Cette souffrance climatique porte un nom depuis peu et prend de l'ampleur à chaque phénomène climatique inquiétant, donc de plus en plus régulièrement. Les premiers à s'y être intéressés ont souvent été moqués. Charline Schmerber, qui a elle-même été victime d'éco-anxiété, est psychothérapeute à Montpellier. Elle travaille sur le sujet depuis 2019, elle lance alors une enquête et en un mois, 1200 personnes lui répondent. Son cabinet est désormais majoritairement fréquenté par des éco-anxieux. C'est avec elle que Vanessa Descoureaux a rendez-vous.
Interception sur France Inter.
En 2019, très honnêtement, qui s'intéresse à l'éco-anxiété ?
Les pays anglo-saxons, plutôt. Mais effectivement, en 2019, c'était encore assez marginal. Moi, je suis dans le sud, j'habite dans le sud, et il y a eu une vague de canicule. Je crois que ça devait être fin juin 2019. Donc là, j'ai vu, suite à ça, des gens arriver à mon cabinet de par cette crainte de voir un monde devenir une terre écuve. Ou voilà, est-ce que c'était, enfin, en 2019, s'est posé la question de est-ce que c'est maintenant les problématiques climatiques, on est en train de les vivre suite à ce phénomène de canicule.
Où le record a été atteint, ce qu'il faut quand même parler de la température atteinte justement dans votre région, c'était 46 degrés.
Oui, dans 46 degrés, je crois que c'était dans un petit village du Gard. Après, j'ai vu des prises de contact via mon site suite à cette journée de canicule.
Aujourd'hui, dans votre cabinet, il y a une majorité d'éco-anxieux ?
Oui, la plupart des gens qui viennent, c'est une plus grosse tendance à être focalisée sur le futur, c'est comment est-ce que je peux me préparer à ce qui risque d'arriver, et des questions par rapport à l'avenir, de l'ordre de quel métier je vais faire, est-ce qu'il faut que je change d'études, est-ce que je peux avoir des enfants, quels vont être l'avenir de mes enfants existants. Donc c'est plein de questions à l'horizon de 2025, 2030, etc.
Comment on en prend conscience ?
C'est une crise existentielle, en fait, que cette éco-anxiété, finalement, ça interroge la personne sur qui est-ce que je suis et qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je peux faire dans le monde actuel.
Et comment on traite une telle crise existentielle, précisément ?
On apprend à vivre avec l'éco-anxiété. C'est pas on fait une thérapie ou on va voir un thérapeute par rapport à l'éco-anxiété pour faire que ça disparaisse. Je pense que c'est une émotion qui est saine. Ça veut dire qu'on est vraiment connecté à la réalité. Mais après, il y a des degrés. C'est-à-dire les personnes qui sont dans beaucoup trop d'éco-anxiété. Alors, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Suzanne Clayton qui a fait une échelle qui permet un peu de caractériser le degré d'éco-anxiété. Et quand on est avec trop d'éco-anxiété, c'est pas possible. Donc, c'est apprendre à ces personnes-là à retrouver une forme de stabilité et à vivre avec un degré d'éco-anxiété qui soit tolérable et qui permette de se mettre en mouvement.
Est-ce que finalement les éco-anxieux ne sont-ils pas tout simplement lucides ?
Si. Enfin, moi, je dis souvent, c'est des personnes saines dans un monde qui s'ignore fou, en fait, finalement. Et c'est, après, la lucidité, ça a un prix. Et c'est souvent, mes patients me disent, je regrette le temps où j'étais plus léger, où j'ai perdu une forme d'insouciance.
Est-ce que cette souffrance n'est pas minimisée par un certain nombre, soit de vos collègues, soit de citoyens, tout simplement, d'hommes politiques ou autres? Parce que finalement, l'Europe ne subit pas au quotidien, on va dire, les effets du dérèglement climatique. Est-ce que c'est ça aussi le cœur du problème qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore une partie de la société sceptique devant l'existence de ce mal ?
ce décalage entre la dimension de l'urgence écologique et puis ce qu'on vit vraiment au quotidien, ça permet d'expliquer pas mal de choses. C'est-à-dire, ça vient expliquer pourquoi la France n'est pas forcément saisie de ce sujet aussi rapidement que l'Australie, qui a vécu les feux, aussi rapidement que les États-Unis, qui a vécu aussi des grandes sécheresses. Donc, tant qu'on n'est pas touché dans notre existence, dans notre quotidien, mais on peut se dire, ça n'existe pas vraiment. Il y a aussi l'empathie kilométrique. On voit dans nos pays frontaliers qui sont touchés, ben forcément, on commence à se dire « Ah, ben peut-être que ça risque d'arriver chez nous ». Donc là, ça fait qu'on bouge, mais il y a aussi toute une grosse problématique de déni. Ben, le déni, c'est là pour nous protéger d'une réalité qui est insupportable. Et je pense que par rapport à votre question de mes collègues, le déni, ça, enfin, avant d'être thérapeute, on est aussi humain, et puis on a chacun nos moyens de défense psychologique. Donc je pense que le déni, ça touche tout le monde, même les psys.
Permettez-moi de dire à tous les délégués que je m'excuse pour la façon dont le processus s'est déroulé.
Alok Sharma, président de la COP26.
Et que je suis profondément désolé.
Malheureusement, la volonté politique collective n'a pas été suffisante pour surmonter les profondes contradictions.
COP26, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
La catastrophe climatique frappe toujours à notre porte.
Nous sommes tout près de La Rochelle, sur la commune de La Jarne, devant une boulangerie bio où la spécialité est le pain au levain. Et l'une des boulangères qui travaille ici a complètement fait dévier sa vie après avoir souffert d'éco-anxiété. Nous allons rencontrer Eugénie, elle a 26 ans. Elle est diplômée de Sciences Po Paris, titulaire d'un master en transformation numérique à Bac plus 6. Elle a choisi donc son métier de boulangère qui a de la valeur et qui a du sens pour elle et pour son engagement.
Bonjour. Bonjour.
Du coup, ça se passe à l'arrière avec ma collègue qui est partie par là.
Hop.
Eugénie.
Bonjour Eugénie. Ça va?
Très bien.
Je ne vais pas vous déranger.
Non, vous
je vous suis juste un petit peu dans votre activité. On parlera beaucoup plus tranquillement une fois que vous aurez débauché.
Ouais, ça marche. De toute façon, là, on va faire en place et ça va se calmer un peu. On met juste de la farine.
Alors je vous suis en attendant que ça se fasse.
Ouais.
Tu vois, c'est quand même la pâte, elle est vraiment ressemblante.
Ouais, c'est chaud, hein. Tu peux en faire un.
Bah oui, tu peux faire le premier ou quoi?
Vas-y, fais-le.
Oui, je suis parti.
C'est gros, c'est pas.
Cru, 2,5 kg, cuivre, 2 kg.
Je sais pas s'il en reste là, peut-être qu'il en reste.
Il y en a un pour toi.
Ah oui. Oui, c'est pas rien. Mon micro se régale. Ça va, vous convient mieux cette pâte là, c'est
ouais,
bon là,
c'est nickel. Là, on voit qu'elle a pris du volume. Elle est belle. Elle est douce.
Rapidement, il représente quoi ce métier pour vous?
Waouh, rapidement. Pour moi, c'est une évidence. Je me sens bien dans ce métier pour l'instant. J'ai l'impression de savoir pourquoi je suis là, j'ai l'impression de servir à quelque chose. J'ai l'impression de savoir où je suis, quoi, d'être à ma place.
On va s'éloigner un peu et quitter le fournil, qui n'est pas très grand d'ailleurs, pour que Eugénie et ses collègues finissent leur longue matinée de travail. Syria.
Syria.
Vous l'aviez avant d'arriver ici?
Ouais. C'est chez moi, quoi.
Bah, très bien.
Donc, c'est pas bon, mais j'ai un canapé pour s'asseoir déjà.
Eh bien, on va s'asseoir là. Il y a de quoi ranger le vélo. Il y a tout ce qu'il faut.
Est-ce que je peux vous offrir un thé ou...
Ah, je veux bien. Pour vous, ce métier de boulangère, c'est pas une reconversion?
Non. Non, c'est une continuité de ce que j'ai fait avant. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu comprendre l'origine des choses. Et j'ai toujours voulu bricoler, j'ai toujours voulu fabriquer, coudre, cuisiner, etc. C'est aussi un travail avec de la matière, avec des éléments qui sont vivants, en fait, parce que là, on travaille sur le vin, donc c'est des matières vivantes. Et donc, c'est jamais pareil tous les jours. En fait, j'arrive pas à me dire que c'est une reconversion, surtout que j'ai à peine travaillé après mes études.
Et c'était un travail de quoi ? Qu'est-ce que vous faisiez à la sortie de vos longues études ?
Globalement, j'étais en train de devenir consultante en stratégie d'innovation durable, on va dire. Mais tous les jours, pendant 40 ans de ma vie qui viennent à écrire des rapports et synthétiser des informations, transmettre des choses qui sont lues par très peu de personnes, qui vont mettre 1000 ans à faire bouger les choses, je voyais pas ça. En étant boulangère et en partageant aussi mes histoires, je sens que j'ai plus de capacité de transformation, parce que je montre l'exemple, que quand j'étais derrière un ordinateur à écrire des textes.
Il a fallu passer par une phase d'éco-anxiété pour trouver votre place exacte dans la société, qui est celle-ci, la place de boulangère ?
Oui, parce qu'au quotidien, en voyant le moindre objet, je me dis comment ça a été produit, quelle énergie il a fallu. C'est abyssal comme questionnement, et c'est pour ça que ça peut être très très inquiétant. Pour éviter ça, et ben en fait, le fait de produire avec mes mains, ça me permet justement d'aller mieux, en fait, d'orienter, on va dire, mon énergie vers quelque chose de beaucoup plus positif que de stresser sur, mais en fait, comment on va faire. Un truc très bête, mais depuis que je suis devenue boulangère, de toute ma vie, j'ai eu des problèmes, donc comme je suis de nature un peu anxieuse, depuis que je suis enfant, j'ai des problèmes d'eczéma. Je me rongeais les ongles à sang aussi, etc. Depuis que je suis boulangère, j'ai plus d'eczéma, mais plus du tout d'eczéma. Les questions que j'ai toujours sur l'énergie, sur l'environnement, sur comment faire pour changer les habitudes des gens, je les ai toujours, mais de manière beaucoup moins handicapante qu'avant.
Pour le réaliser, il a fallu quand même du temps. J'imagine que ça a été un long cheminement et pas quelque chose de fulgurant. Un matin, on se réveille et oups, je vais faire autre chose de ma vie.
Non, alors au début, je suis autodidacte, donc je faisais du pain dans ma cuisine, au levain. Ça fait 4 ans. De fil en aiguille, j'en suis venue à vraiment un jour me dire non, mais en fait, c'est ça qui me plaît. Mais je suis pas vraiment sûre quand même de vouloir travailler dans des fermes ou dans des boulangeries. Donc pour mettre à l'épreuve ce que je pense vouloir être, il faut que je parte en voyage un peu initiatique. Et c'est comme ça que j'ai été accueillie par plusieurs dizaines de paysans, de boulangers, de boulangères, de personnes qui m'ont offert l'hospitalité, qui m'ont permis de participer à leur fournée, etc., à travers la France. Donc c'était à l'été 2020. Et à la fin de ça, j'ai pris la décision que voilà, j'allais pour l'instant, en tout cas, on verra plus tard, mais que ça me plaisait tellement que j'allais devenir boulangère. Voilà. Ça a vraiment changé ma vie, le fait de venir à l'épreuve des choses, en fait. Et finalement, le choix de vie s'est fait en un an, alors qu'avant ça, j'étais pas sûre de ce que j'allais faire de ma vie pendant toute ma vie, quoi. Pendant 25 ans, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie, et puis en un an, j'ai pris confiance, quoi.
Quel est le regard, justement, des copains de promo que vous êtes fait pendant toutes ces années d'études ?
Regard des copains de promo, je sais pas, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Vous avez plus de contact ?
Oh, si, c'est toujours des copains, mais ils ont toujours su que j'étais un peu à part. Ça, ils m'ont déjà dit. Mais il y a toujours un petit canard boiteux, il fait ce genre de truc à côté. Mais les copains, ils trouvent ça courageux. Et c'est assez bizarre d'ailleurs, parce que moi justement, je trouve ça courageux de s'enfermer dans un bureau toute la journée et payer des loyers faramineux à Paris. Moi, je trouve ça pas courageux du tout de faire ce que je fais.
Et la famille ?
Ils ont du mal à comprendre, parce que encore une fois, personne n'est artisan dans ma famille. Après, ils me disent tant que t'es heureuse, c'est le principal. Mais c'est vrai que c'est compliqué, mais surtout pour les grands-mères. Pourquoi ma petite fille qui a fait Sciences Po, pourquoi elle devient boulangère, machin. Mais du coup, j'avais plein aussi de personnes âgées, bon, pas ma famille, mais qui me demandaient, mais du coup, la boulangerie, tu fais quoi? Tu vends, mais tu fais un peu de pain parfois? Parce que aussi, le fait d'être une femme. Non, je suis boulangère. Je fais le pain.
Nous sommes avec Laure Noila. Vous êtes l'auteur de « Comment rester écolo sans finir dépressif ».
Pour sortir de l'éco-anxiété, faut vraiment y aller à fond, quoi. Faut vraiment plonger dans ce bain d'émotions basses qui sont la colère, la peur, l'impuissance, la tristesse, évidemment, pour en sortir. Alors, je m'explique. Parce qu'en fait, en gros, c'est comme faire un deuil hein, du XXe siècle, du Just Do It, Yet We Can. Et du coup, après, on en ressort essoré. Enfin, et dans ce deuil, on va descendre, on va partir de la sidération à la dissonance cognitive. Je sais, mais je bouge pas. Le déni, puis la dépression, parce que le cerveau, il tient pas longtemps comme ça à lutter contre les émotions. C'est bien de tomber. Parce qu'après, on a l'élan pour repartir et être sur ce que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle tous d'ailleurs, la phase de l'acceptation. Accepter que le monde change et que tout ce qu'on a connu, tous nos référents culturels, sociaux, environnementaux, paysagers, vont changer, quoi. On sait que quelque chose de terrifiant va arriver, d'irréversible en tout cas, et on s'occupe. Et autant s'occuper à être le moins impactant possible, le moins dans la prédation possible. Donc, en fait, c'est transformer son mode de vie comme un peu, comme un petit jeu vidéo, quoi, la Mario Bros, quoi. Miam, miam, je prends des points dès que, des points de morale, hein. Ça fait du bien d'agir.
Qu'est-ce que vous avez fait, vous, personnellement, pour rebondir?
Alors déjà, pour rebondir, je suis allée tout en bas. Moi, je travaillais à Libé, à la Pachetère, donc Libération, Quotidien National, Pachetère, tous les jours de la mauvaise nouvelle pendant 15 ans, mais de la super mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, tous les voyants en rouge. Donc je suis
à une époque où ça faisait pas forcément la une, même de Libé en plus.
Bah, quand on faisait la une, on me disait bah, « ça vend pas ». Donc on arrête de faire la une là-dessus. Ce qui m'a un peu sauvé la vie, je l'avoue, c'est de déménager, sortir de Paris. Et surtout, j'ai trouvé une maison. C'est con, c'est la rencontre avec la maison. Elle aussi était effondrée. Je me suis dit, mais on va se réparer toutes les deux, quoi. D'abord, le retour au silence, le ralentissement dans la vie, le rythme des saisons, la nature, les bains de nature, il n'y a rien de plus réparateur.
Est-ce que pour autant, dans cette nouvelle vie que vous décrivez, vous vous sentez complètement apaisée ou il y a encore des phases d'anxiété, de poussée? J'ai la réponse visiblement à votre regard. Il y a encore visiblement des phases d'angoisse qui reviennent.
À mort. Je sais pas, ça m'arrive souvent d'être très émue par un paysage ou un moment en pleine nature et j'ai vraiment du mal à réfréner mes larmes face à cette peine qu'on a infligée à tout un vivant. Ouais, ça, le rapport au vivant, moi, me blesse encore beaucoup. Voilà.
À quelques kilomètres de chez Laure Noilla, dans l'Yonne, Vanessa Descoureaux a rencontré Emmanuel et Valérie.
Le jour, tu devrais mettre un petit pull.
Ce couple de quadragénaires a créé dans l'Yonne un écolieu dédié à la transition écologique. Valérie, psychosociologue, accompagne les entreprises en quête de changement. Emmanuel, qui est en train de quitter son poste d'associé dans un des plus grands cabinets d'experts comptables parisiens, va créer sa société destinée exclusivement aux entreprises vertueuses.
La foi.
Ils se sont construits un village là-bas, un village de cabanes, ça s'appelle Boisville. Et eux, ça a été les premiers à vraiment découvrir la forêt et à devenir des petits habitants de la forêt. On redécouvre un regard. Ouais. Je m'appelle Valérie, j'ai 46 ans, je suis psychosociologue et mon métier est d'accompagner des changements, principalement dans des organisations.
Je m'appelle Emmanuel. J'ai 49 ans et je suis expert comptable.
Où sommes-nous ?
Nous sommes à la Tuilerie de Talouan, qui est un écolieu destiné à accueillir des séminaires de reconnexion à soi et aux vivants et aux autres. C'est pas un lieu de survivalisme, ça c'est sûr, c'est pas du tout notre optique, mais c'est un lieu où on réapprend le vivant, on réapprend le temps long, on réapprend la connexion à soi, à autrui, à la nature, et ça a cette fonction-là.
Vous êtes déjà complètement reconnecté ou vous êtes en cours de reconnexion avec la nature et avec le vivant?
Ah non, nous on est en cours de, on est au tout début du chemin. Ce qui est incroyable, c'est de voir comme le regard s'éduque. La première fois que je me suis promenée ici, j'ai vu une forêt. J'ai vu des chemins, des arbres, du vert. Et puis au fur et à mesure, on voit des traces d'animaux qui sont passés, des empreintes, des petites plantes. Voilà, le regard s'éduque à voir plus de choses.
Alors, vous deux, Valérie et Emmanuel, contrairement à d'autres personnes qu'on a pu entendre préalablement dans le reportage, vous n'avez pas changé de vie. Vous avez, et ce lieu évidemment en fait partie, on va dire réajusté, réaligné les vies. C'est quoi le bon terme selon vous, Valérie ?
Oui, réaligner, réajuster, c'est ça. On a gardé nos métiers, mais on les a orientés sur la redirection écologique. Pour moi, sur la partie accompagnement du changement et sensibilisation, et pour Emmanuel, sur la partie expertise comptable et business model.
Même métier, toujours expert comptable. Ensuite, peut-être une première partie où j'ai été au service de la performance tout court et peut-être de la performance financière en premier lieu pour mes clients.
Dans le système, donc, à fond.
À fond dans le système. En revanche, aujourd'hui, la performance qui va m'intéresser, ça sera une performance plus large. On peut parler de performance globale. En tous les cas, ça va être la performance de l'organisation dans ce contexte particulier d'une économie, d'une société qu'il va falloir réinventer. En tous les cas, réimaginer. Il va falloir apprendre à compter autrement et à compter avec plusieurs types de capitaux, ce qu'on n'a globalement pas fait depuis que l'économie capitaliste libérale existe. On a quand même toujours appris à compter de l'argent et globalement à ne compter que ça, ou en tous les cas à compter de façon extrêmement prioritaire le capital financier.
Qu'est-ce qu'il vous a fallu pour comprendre ça ?
Je pense que c'est plutôt un processus qui a duré 2 ou 3 ans me concernant, qui a effectivement démarré... avec un processus d'apprentissage qu'on connaît bien, nous, compte tenu de ce qu'on est, c'est-à-dire par la lecture, par la documentation, et puis à un moment donné, effectivement, un sentiment de tristesse assez présent en ce qui me concerne, un sentiment de désarroi, et puis donc une vraie courbe du deuil, avec progressivement l'énergie de l'entrepreneur qui reprend le dessus, et la nécessité à un moment donné de retrouver un peu de sérénité, de retrouver un peu la paix intérieure pour se mettre sereinement en mouvement, et contribuer, mais avec toujours un fond, je pense, en ce qui me concerne, toujours une forme de tristesse par rapport à ce caractère irréversible et des dégâts qu'on a occasionnés, qu'on continue d'occasionner par notre présence sur Terre. Moi, ça reste quand même quelque chose de très présent, pas d'obsédant, plus d'obsédant, parce que l'action...
Ça l'a été.
À un moment donné, ça l'a été. Et aujourd'hui, voilà, la volonté d'agir et d'être utile, de se mettre en mouvement, a pris le dessus.
Nous finissons ce reportage en lisière du bois de Vincennes, tout près de Paris, parce que c'est ici que donne rendez-vous le psychothérapeute Yann Desbrosses à ses patients. Il pratique l'éco-psychothérapie. Alors ça veut dire des séances qu'on va qualifier de conventionnelles, c'est-à-dire dans son cabinet, mais aussi des séances en plein air, en marchant dans la forêt, au contact de la nature, pour que ses patients éco-anxieux puissent se reconnecter au vivant.
Par exemple, par là, c'est assez calme, c'est tranquille et bon, on va créer un chemin ensemble. Pendant les premières minutes, je propose à la personne qu'on marche sur un chemin que je lui propose, ce qui lui laisse le temps de raconter par exemple ce qu'elle a vécu pendant la semaine ou depuis la dernière fois. Et puis, assez rituellement, quand on passe cette route, je propose à la personne qu'elle crée son itinéraire, qu'elle se laisse attirer, toucher par les paysages qu'elle rencontre, sans trop réfléchir, en étant vraiment à l'écoute de ce qui lui vient. On va, à certains moments, leur présenter tel ou tel dispositif d'expérience. Par exemple, comme en se promenant dans le paysage, là, laisser venir un endroit qui me ressemble. La personne peut se mettre en quête d'un espace qui... dit quelque chose d'elle. Je vous laisse choisir, Vanessa.
Allez, par ici.
Allez. Et puis...
Ça m'inspire plus.
Allez, c'est bien. Ouais, les deux sont jolis, là. C'est chouette, l'automne. Hein. C'est vraiment...
Les couleurs sont magnifiques.
Oh, c'est magnifique, là. Et puis, à un moment donné, on peut bien souvent se reconnaître, ou en tout cas projeter certains éléments de notre vie. Par exemple, quand on regarde qu'un arbre, il peut être ou bien isolé, ou bien tout près des autres. On voit parfois des arbres qui ont dû se courber, s'adapter vraiment aux circonstances qu'ils ont dû traverser. On voit des arbres qui sont aussi recouverts d'autres végétations, de lianes, de mousses, qui acceptent d'être un peu envahis. On a tout un ensemble très riche comme ça de jeux d'écho qui permettent de pouvoir rentrer par le détour de l'arbre dans une relation à des parties de soi qu'on n'avait pas osé parler directement.
Est-ce que tous les éco-anxieux qui viennent vous consulter ont besoin de cette reconnexion au vivant ?
Alors, les éco-anxieux qui viennent me consulter, ils vont aussi ne plus réussir à partager avec leur entourage ces émotions douloureuses. Typiquement, dans un repas de famille, l'éco-anxieux, il aimerait pouvoir partager l'inquiétude qu'il a, mais au bout de quelques secondes, il y a des rires, il y a une blague, la conversation a
Et c'est celui qui gâche toujours l'ambiance, etc.
C'est ça, c'est le Cassandre, c'est celui qui emmerde tout le monde. Voilà, moi j'aime beaucoup les éco-anxieux, parce que ce sont des personnes qui sont en contact avec ce que vit le monde. Ce qui m'inquiète plus, c'est les éco-paralysés. Cette défense contre cette réalité si difficile, une défense qui consiste en fait à s'anesthésier et à ne pas sentir.
Ce sont des échos paralysés ou des gens tout simplement dans le déni ?
Les éco-psychologues américains des années 80, 90, 2000 ont fait un travail très fin pour vraiment détailler ça. Joanna Macy, qui est une des pionnières, elle disait aux gens dans les années 70, mais regardez ce qui est en train de se passer là, ça menace la vie de vos enfants. Les gens aiment leurs enfants et pourtant, ils n'étaient pas en mesure de changer leur comportement. Qu'est-ce qui se passe là ? Et en fait, il y a tout un ensemble de comportements assez compliqués qui font en sorte que se conformer au modèle dominant, c'est plus simple.
Éco-anxieux ultra lucide, c'était un reportage de Vanessa Descourou. Réalisation Jérôme Chélus, assisté de Martine Messonnier, mixage Pierre-Henri. Reportage disponible à la réécoute sur franceinter.fr.